marine.
Vivre et travailler sur la mer et le littoral.
Un projet étudiant porté par Radio.
Marie-Michèle Lucas.
Je suis Marie-Michèle Lucas, je suis artiste, je vis à Brest, je travaille à Brest, mais je suis aussi prof à l'école d'art depuis quelques temps déjà.
Bonjour Marie-Michèle, nous t'avons rejoint sur le port du Château à Brest. C'est l'un des deux ports de plaisance de la ville où il est possible de se promener en bord de mer. Nous sommes juste à côté du deuxième port militaire de France, l'arsenal maritime de Brest, ainsi que de la base française des sous-marins nucléaires, l'île Longue sur la presqu'île de Crozon. Donc tu vas nous présenter tes divers projets artistiques au cours d'une balade dans Brest. En ce moment, tu tiens dans tes mains un livret avec des bunkers le long du littoral de Brest.
Alors celui-là que j'ai dans la main, il est important parce que c'est ici que je suis venue dessiner, prendre des repères pour une des parties de ce qui s'appelle trait de côte nuit. C'est-à-dire que j'ai essayé de voir les appareillages militaires qui existaient la nuit et comment la ville de Brest était défendue, donc pendant qu'il y a eu le mur de l'Atlantique, qui a été construit à partir de 1942, et qui est donc tombé après, à la fin de la guerre. Donc c'est un mur construit par les Allemands. Mais ce qui m'a frappé dans ce mur, c'est que c'est un mur de regard depuis la mer. C'est-à-dire que ce qui m'a frappé, c'est que il y a des bouches sur chaque appareillage, des bunkers en fait. Il y a des bouches à feu. Et chaque bouche à feu couvre une partie de l'horizon marin. Donc ça m'a beaucoup intéressée, cette ligne un peu imaginaire, mais en pointillé, mais qui fait que quand on est sur la mer, on est tout le temps sous la bouche à feu d'un canon, ou bien on est tout le temps à portée de regard. Donc ici, j'ai quand même beaucoup extrapolé, c'est le trait de côte nuit. Alors je vais quand même le lire, ce que j'ai écrit là. Il y a 7 dessins qui font tous... ils sont très hauts, ils sont grands. Moi, j'aime bien travailler en grand. Ils font 2,25 m de hauteur et 1,50 m de chacun. Donc ça fait 7 fois... Enfin, ça fait 13 mètres, un truc du genre. Et donc, sur ce... J'ai fait une continuité. Quand on les voit ensemble, ça fait comme un très grand dessin avec une espèce de... On est sous... Comme si on était dans un bateau et comme si, en 43, par exemple, on était sous les feux allemands depuis la mer. Il y a la batterie de l'île Longue que j'ai dessinée là. Après, j'ai dessiné la position du port Zic. D'ailleurs, on la voit d'ici. La position du port Zic, elle est là. Il y a la batterie de la Maison Blanche qu'on voit aussi, la base sous-marine qui est encore à notre gauche, puisque là on est face au château, et la batterie de la jetée des quatre pompes, la batterie de l'avancée du château. Et c'est donc ici que je suis venue la dessiner en essayant de nuit d'imaginer comment ça pouvait être en 42-43. Donc c'était exactement ici. Donc il y avait le château qui était certainement un terrain occupé. Enfin certainement, c'est une base militaire en fait. L'origine de Brest est comme une origine militaire depuis le 17e. Et là je pense qu'il y avait un point très fort. Donc j'ai copié les lumières, un peu c'est ce qu'on voit sans doute par là sur mes dessins. Copié ces lumières vers le château. Et puis je suis venue ici aussi parce que ça nous permet d'avoir cette vue, cet endroit que je trouve magnifique, nous permet de rentrer dans la Pinfeld, ce qu'on ne faisait pas avant, quand on n'avait pas cette jetée du château. On ne pouvait pas voir ça. Donc voilà, pour poursuivre mon dessin, après j'ai fait quand même les lumières qui étaient sur le port de commerce. Je ne sais pas ce qu'il en était en 42. Et donc j'ai mis aussi au bout toutes les lumières de la pointe de l'Armorique de Plougastel. Donc nous, ici, ça fait quasiment presque 360 degrés, ouais, quoi.
Un panorama
complet. Voilà. Et donc, avec cette ville très défendue, et donc avec ces lumières qui venaient atteindre les bateaux.
Nous sommes au niveau de l'emplacement de l'abbaye Bourbon. un navire remorqueur qui part au large pour secourir d'autres bateaux en détresse. Aujourd'hui, il n'est pas là. Vu le temps, il doit être au large ou au niveau de Plougonvelin. Donc tout à l'heure, on parlait des espaces fermés à Brest, car ce sont des terrains militaires et donc les Brestois n'y ont pas accès. Est-ce que tu penses que ça a changé c'est le fait que ces espaces soient fermés, ça change le rapport entre les Brestois et la mer?
La question est complexe parce que quand j'étais gamine, je suis née à Brest, on allait sur le port de commerce. Et on allait, il y avait des pêcheurs dans les formes de radoub, etc. Donc ça aussi, c'est fermé. Hein, donc le rapport à la mer des Brestois, il s'est de plus en plus clos. Mais c'est vrai qu'il y a cette partie militaire qui est vraiment fermée. Et moi, ça m'a un petit peu fait penser à Cité Interdite, donc Cité Interdite de Pékin, qui était un lieu totalement clos, comme ça, où vivait l'empereur, hein, et personne d'autre n'y rentrait, mais lui aussi était prisonnier de cet endroit. Mais ce Cité Interdite, un peu relaté par un grand auteur de Brest, en fait, il est né à Brest, c'est Victor Ségalin, hein, qui parle bien de la Chine. Et qui fait un roman sur la cité interdite. Mais sur cet aspect-là, j'ai voulu, moi, marquer ce rapport aux militaires à Brest, c'est-à-dire cet empêchement qu'on a toujours, de toucher la mer. Hein, à quel endroit on peut toucher la mer dans Brest et à quel endroit jusqu'à quel endroit, en fait, on peut la retoucher à nouveau. Et ici, donc, j'ai fait ce film qui s'appelle Cité interdite. C'est un petit film vidéo qui dure 60, enfin qui dure là, en fait 11,5 km de murs qui entourent la cité militaire. C'est 11,5 km. J'ai demandé à des marathoniennes de le courir. Donc ça dure le temps où les marathoniennes, le film dure le temps où les marathoniennes courent ces 11,5 km. C'est-à-dire que ça fait un peu 60 minutes, un truc du genre, un peu plus d'une heure. Et donc ici c'est le premier point. Alors le port du château a été réouvert depuis, je ne sais plus quand on a commencé ce film, mais j'ai fait plein de bouts, à des années différentes. Mais en tout cas, ici, si on regarde bien, on était au port du château, mais on ne peut quand même pas toucher la mer. Si on peut aller sur les pontons du port du château, oui, mais les pontons sont quand même fermés au public. A priori, on ne va pas, on ne touche pas la mer. Donc le premier endroit où dans Brest on touche la mer, c'est bien ici, au lieu de l'abbaye Bourbon. Et quand même à l'endroit de la gare maritime. Là, l'abbaye Bourbon n'est pas là, mais on voit la gare maritime qui part sur les îles. Donc de cet endroit-là, on va longer, donc on va le faire en partie, en pointillé, mais les marathoniennes sont vraiment parties d'ici. Et donc on va se tourner un peu, et je les ai fait passer par là, derrière, et longer tout le mur du port du château. Et après, encore derrière ces bâtiments, on passe devant la porte Surcouf, et après, on grimpe devant le château, et après, on redescend par la porte Tourville. Et après, donc, les marathoniennes courent toujours porte Tourville, on grimpe les escaliers, le boulevard, non, c'est pas Gambetta. Si, c'est le boulevard Gambetta. Non, Jean Moulin. Le boulevard Jean Moulin, on passe la porte de la brasserie, et ensuite, on va, nous, se récupérer à la porte de l'arrière-garde. Tous les endroits où on est empêché de rentrer, de toucher la mer, en fait. Puisque c'est vraiment un grand mur qui contourne tout cet endroit, jusqu'aux quatre pompes. Hein. C'est vraiment... alors, ce mur, je ne sais pas quand il a été fait. J'ai lu que Brest avait été fermé comme base militaire en 1865, mais je n'ai pas fouillé l'histoire, vraiment. Mais c'est fermé au public depuis assez longtemps. Il y a vraiment des murs et des portes. Et à ces portes, on est contrôlé. On peut pas. Moi, je suis une femme, en fait, et les femmes ne peuvent pas rentrer. Enfin, c'était surtout un monde d'hommes, même s'il y a quelques témoignages de femmes dans l'arsenal, mais c'est quand même un monde d'hommes, essentiellement. Donc, c'est vrai que pour moi, il y a aussi ne pas toucher la mer, ne pas pouvoir aller à la mer, mais aussi ce monde essentiellement ouvrier et masculin. Et arrivé ici, on s'est bien amusé parce que on a suivi une des marathoniennes à moto sur le trottoir tout du long. Ici, on est boulevard Jean Moulin. Donc le film a eu plein de petits épisodes, et puis avec différentes façons aussi de prendre le film. Parce que tantôt, c'était un travelling en voiture. Et là, pour cette partie-ci, c'était un suivi à moto. Et je trouvais que cette vue était assez splendide. Donc je tenais à avoir cette vue latérale. Parce qu'on a, à travers les grilles, on voit tout l'autre côté des Capucins. C'est-à-dire qu'on voit la partie, on domine d'ici, la partie qui nous est interdite. Hein, on la voit, cette partie interdite, par en haut. Tu vois, Brest, je peux vous donner pourquoi esthétiquement ça m'intéresse, parce que c'est aussi une ville très abstraite, enfin de rythme. C'est une ville qui n'a pas une décoration florale, par exemple, c'est pas une ville d'Art Nouveau. Et du coup, il y a quelque chose de la façade et du rythme, des ouvertures, des corniches, enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a de beaux ensembles d'habitat qui donnent une espèce de structure comme ça, variante, quoi, assez fantaisiste quand même. Là, on a un orange, un rouge, brique qui se mélange avec le bleu de l'autre côté. Enfin, c'est des petites touches de couleurs, mais c'est aussi, vous voyez, là, c'est assez en hauteur ou presque carré. D'autres fois, elles vont être plus larges. Et je trouve que cette variété-là est assez passionnante. C'est de grands ensembles urbains, en fait.
Tu nous as emmenés en voiture au niveau de la porte de l'arrière-garde. Donc là, on se trouve au prolongement de la Penfeld, plus à l'intérieur des terres. La Penfeld, c'est le fleuve qui sépare la ville de Brest en deux. Et donc, on continue de parcourir l'itinéraire des marathoniennes, beaucoup d'escaliers, et toujours en longeant les murs de l'enceinte militaire.
C'est exactement ça. Il y a du dénivelé à Brest, hein. Donc c'est vrai que les marathoniennes, elles ont dû monter et descendre. Le parcours est quand même assez compliqué. Donc ici, la porte de l'arrière-garde, elle est devant nous. Et c'est vrai qu'elle est ouverte maintenant, depuis que l'armée a vendu les Capucins à la ville, hein, et que les Capucins ont été aménagés. Donc avant, c'est pas si vieux que ça, je sais pas de quand ça date l'ouverture de la porte de l'arrière-garde, peut-être, je sais pas, une dizaine d'années, peut-être même pas. Donc la porte de l'arrière-garde, elle était gardée par quelqu'un, hein, et la Penfeld passe par-dessous le mur, là. Il y a un mur qui laisse... donc il y a des buses, hein, c'est par-dessous, la Penfeld passe là. Et donc nous, on va prendre ce chemin, le mur donc, qui longe encore tout l'arsenal qui est là. C'est vrai qu'en voiture, j'ai pu vous montrer jusqu'à un endroit derrière la fac. Et là, on peut le faire en voiture. Hein. Vous avez vu, on a pu aller en voiture, passer. La porte Tourville, on ne l'a pas vue en voiture. Mais les autres portes qui ne sont pas nommées, la porte de la brasserie aussi, on a pu la faire, on est passé en voiture. Et à un moment, les marathoniennes, elles court-circuitent par derrière la fac pour longer ce mur. Donc nous, on va prendre ce petit bout-là. Et après, on prendra peut-être l'autre bout aussi. Alors ici, on a pris le petit chemin, on est à la porte de l'arrière-garde, on s'est garé là. Et en fait, il y a la rue des Archives, et juste à côté du mur, il y a un petit chemin qui jouxte le mur. Hein. Il y a vraiment un mur de séparation, et là, on le voit physiquement, il est haut, on ne voit pas grand-chose derrière. Donc on a avancé jusqu'à un endroit que je ne repère pas bien, mais il y avait sans doute une fonction, parce que le mur est plus bas, mais néanmoins, ça correspond à la falaise. Et donc, même si on voit quand même pas grand-chose de l'autre côté du mur. Mais je crois qu'il y avait, il faudrait faire le lien avec les bâtiments de l'arsenal qui étaient là. Ensuite, de cet autre côté, alors nous, on a pris le chemin à l'envers par rapport aux marathoniennes, puisque je les ai fait partir de l'est vers l'ouest. Et donc, elles arrivaient par là en haut, et juste là-bas derrière, c'est la fac. Donc, elles longent toute la fac, le gymnase notamment, le gymnase universitaire, la bibliothèque universitaire, et le chemin est à peu près comme celui-ci. Quoi dire de plus ? Oui, que c'est pentu, c'est très sauvage, que c'est une partie toute verte, assez étonnante dans Brest, mais vous voyez, ce mur, il est quand même là, et il y a une espèce... C'est étrange, parce qu'on cherche à voir, enfin, il y a le... Moi, je trouve que cette ville est quand même... À la fois, je suis en colère qu'on ne puisse pas passer ce mur, mais à la fois, il y a une espèce de cachet que je trouve assez beau, de secret, de caché. Enfin, c'est une ville du secret et du caché, hein, tout le temps. Hein. La base militaire, qu'est-ce qu'on en voit ? On ne sait jamais, on ne peut qu'imaginer. Et j'avais entendu Pierre Sansot, il est sociologue, je crois, c'était un colloque sur les villes reconstruites, et il disait, mais la chance que vous avez à Brest, vous n'avez plus votre histoire dans les murs, mais vous pouvez l'imaginer. Et il y a un côté un peu comme ça, ici, allonger ce mur, c'est comme si le territoire de l'imaginaire pouvait... se revivre. Alors, se revivre comment ? J'avoue que pour ce film, je ne sais pas quel imaginaire je cherche. Pour le moment, c'est la colère que les femmes ne puissent pas avoir accès à l'intérieur de l'arsenal.
Dans le débat public, il y a la question de réaménager les rives de la Penfeld. Est-ce que tu imagines un jour que ces rives-là seront de nouveau ouvertes ou c'est peine perdue ?
Ah non, c'est vraiment le projet de Paola Vigano. De réouvrir toutes ces parties-là et d'en faire, de longer le mur, de conserver une trace de ce mur, mais que l'on puisse avoir... Elle parlait de la ville-paysage, alors j'ai pas repris depuis longtemps ce qu'elle proposait, mais ici, en venant là, ici, il y a des points de regard, en fait, un peu plus haut, on aurait ces lieux de ville-paysage, parce qu'elle trouve que c'est exceptionnel. Le militaire a fait ça, c'est qu'il a quand même pu préserver des endroits comme celui-ci. Assez étonnant. Dans la ville, en pleine ville. Donc oui, je pense qu'il y a un futur là-dessus. Et là, je trouve la porte, c'est génial, parce que sinon, la marathonienne, elle s'arrêtait là, devant cet énorme trou. Mais, et donc cet énorme trou, c'est une douve. Et de l'autre côté, donc elle est montée en rappel, et de l'autre côté, on a le début des forts de Quélyverzan. Donc c'est un appareillage militaire qui date de Vauban. Peut-être qu'il y en avait avant, hein, mais vraisemblablement, Vauban a remis ce truc en épi, là, pour protéger la rade de Brest. D'accord. Vraiment, on est à nouveau sur des... Enfin, c'est vraiment une ville militaire. Hein. C'est vraiment des architectures
pour être
militaires.
Protégée.
Et elles, enfin, il y a une beauté quand même de ces vieux bâtiments très rigides, très solides. Enfin, j'expliquais tout à l'heure mon plaisir du rythme dans Brest, du rythme de la déconstruction dans Brest. Mais le militaire, il donne ça aussi. C'est des lignes assez droites. C'est des lignes claires, on n'a pas de fioritures. Hein. Et je crois que j'aime assez cette géométrie, cette abstraction géométrique-là, ou en tout cas je m'y suis habituée, parce que ça nous donne aussi, l'œil va glisser peut-être sur un bonheur d'animation différent d'une décoration. Il y a un côté peut-être, je ne sais pas comment dire, peut-être plus cinéma, peut-être oui, ça serait pour être ça.
Thank you.
Jaurès, les Capucins. Une musique se fait entendre, celle qui nous vient du grand large. Reste le port du bout du monde.
Vous écoutez Marine sur Radio U.
Aujourd'hui dans Marine, nous sommes en compagnie de Marie-Michèle Lucas, artiste plasticienne et enseignante à l'École européenne supérieure d'art de Bretagne à Brest. Ensemble, nous nous plongeons dans le passé maritime de Brest à travers des lieux gorgés d'histoire, mais aussi source d'inspiration pour l'artiste. Nous sommes toujours au bord de la Panfeld et nous sommes arrivés en face d'un marégraphe. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'un marégraphe et en quoi ça t'a inspiré à un moment donné?
C'est le marégraphe de Brest. Alors celui-là qu'on voit, c'est vraiment pas spectaculaire, hein. C'est juste quelques poteaux qui sont échelonnés avec des hauteurs différentes. C'est pas tout à fait le marégraphe d'origine. Le marégraphe d'origine, il a été construit sous le château. Et je pense qu'aujourd'hui, il y en a encore un sous le château de Brest. Alors pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai été attirée par ça? En fait, c'était un moment, avant 2000, hein, où les documents étaient tous papier. C'était où, en fait, je me questionnais sur le niveau zéro. Et j'avais eu vent du marégraphe de Marseille. Le marégraphe de Marseille, il calcule le niveau zéro des cartes terrestres.
Le zéro IGN.
Le zéro IGN. Et donc ici, je me suis rendu compte qu'à Brest, on avait le marégraphe maritime. Alors, c'est plus complexe que ça, le marégraphe maritime, parce que mais le zéro des mers se fait à Brest, au Chaume. Et donc, j'ai eu un vertige, à ce moment-là, à me demander, mais est-ce que les zéros sont les mêmes? Est-ce que le zéro de Marseille, qui mesure les terres, et le zéro de la Terre, qui mesure les 4000 mètres du Mont Blanc, est le même que le zéro des mers? Eh bien non, ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même zéro. Il y a des variations. Et donc, je me suis plongée dans l'histoire du Chaume. Le Chaume, c'est donc un bâtiment qui n'est pas très loin de là, mais qui fait... Alors, c'est pas tout à fait... Ils n'utilisent pas tout à fait le marégraphe. Le marégraphe reste un repère. Mais c'est plutôt des données qu'ils vont mélanger pour faire le zéro marin. Donc, le zéro marin, c'est le zéro... Notamment, il est important, c'est le zéro des moyennes marées. Il est important pour les bateaux quand on arrive dans un port. Enfin voilà, donc ce vertige-là m'a fait me questionner sur le niveau zéro à Brest, à Marseille. Et aussi, je voulais aller interroger une autre ville, une troisième ville qui était Anvers. Anvers, c'est un grand port. Et j'avais eu vent que ce port était sous l'eau. Donc ça a donné pour moi trois maquettes en bois. Ici, on voit sur cette maquette, j'ai apporté la photo pour vous montrer, c'est la ville de Brest. Donc j'ai fait une maquette de la ville de Brest, j'ai fait une maquette de la ville de Marseille et une maquette de la ville d'Anvers. Donc c'est en bois bricolé, c'est plutôt en bas-relief. Et là, c'est une vue de la mer à nouveau. Hein, c'est Brest, vue de la mer, telle qu'on voit depuis la rade. Et j'ai voulu la soumettre à une variation du niveau marin. Et c'est pour ça qu'on a mis les trois villes, on les a mises à l'eau. Donc elles ont été là, c'est Brest. Alors ça me plaisait aussi, cette idée-là, parce que... On est donc Brest est comme une île en fait. Et c'est un caractère que les gens ont reconnu un peu dans cette photo, mais qui on dit Brest est une île. Brest, il y a un caractère d'insularité dans cette ville. Peut-être pourquoi? Peut-être parce que c'est un bout du monde, peut-être parce qu'il y a aussi une espèce d'autonomie d'un port. Et je pense que cette photo-là, oui, effectivement, avec sa maquette, nous rappelait tout ça. Donc j'ai fait une campagne d'affiches à ce moment-là qui s'appelle Le Dit d'elle. Et donc dans ces grandes affiches 4x3, c'est quelqu'un qui raconte son voyage dans ces trois villes avec ce questionnement du niveau zéro.
Comme on a pu le comprendre, tu t'inspires souvent du territoire sur lequel tu es dans tes créations. Est-ce que tu cherches toujours à avoir un accès à la mer ?
Je pense que je suis très géographique. Enfin, moi, j'ai besoin de marcher, d'avoir les pieds, d'avoir le regard, d'avoir la vue. Donc, c'est là où je vis et je n'ai pas décidé de changer d'endroit de vie. Donc, l'endroit où je vis, c'est Brest et ses abords. Donc, j'ai fait parfois des recherches en dehors de la mer, mais globalement, c'est quand même à partir d'ici, comme un port, en fait. Oui, la mer est importante pour moi. Je pense que c'est essentiel.
Et est-ce que tu penses que ta relation avec la mer a évolué au cours de ta vie ?
Énormément. Ma relation à la mer n'a pas été tout de suite... Enfin, j'ai toujours aimé me baigner. Hein. Il y a toujours un aspect très corporel de la mer. Se baigner, courir sur une plage. Mais je n'ai jamais vraiment navigué, par exemple. Je n'appartiens pas à la génération des loisirs qui ont pu avoir accès... accès rapidement à la natation, ni accès rapidement à la navigation. Donc ça, je l'ai découvert que plus tard. Et il y a aussi que la ville était peut-être une ville pas aimée. Dans les années 60, j'étais jeune, 70, la ville, on disait que c'était une ville grise et pas... tout le monde détestait cette ville. Et il a fallu apprendre à l'aimer. Enfin, comment expliquer ? Quand autour de nous, on dit que la ville est grise et qu'elle est moche, on le garde assez facilement, même si au fond de soi, en creusant un peu, on pense que c'est un endroit où on a envie de vivre. Donc voilà, oui, ça a beaucoup changé. Et je pense que le regard sur la mer a changé. Quand les gens de l'extérieur ont pu venir le dire qu'il y avait cet accès à la mer, que c'est une ville avec une plage les pieds dans l'eau, en fait. Alors que je crois que les Brestois ne le savaient pas vraiment. Je crois qu'ils le découvrent. C'est une ville qui évolue tout le temps. Et en ce sens-là, je pense que l'aspect à la mer pour les Brestois a beaucoup changé. En fait, dans les années 80, on a monté Géoarchitecture. C'est un institut assez beau qui questionne l'environnement de la ville, qui questionne la ville de Brest. Et il s'est monté, il n'y en a pas beaucoup des instituts de géoarchitecture, il y en a un qui s'est monté à Brest. Et moi, j'ai beaucoup connu les étudiants de ces premières fournées de géoarchitecture et qui nous ont aidés à regarder. Et notamment, un des premiers constats qu'ils faisaient, c'est que la ville de Brest tournait le dos à la mer. C'était vraiment l'expression. La ville tourne le dos à la mer. Et ce qui fait que peu à peu, ils ont mené des opérations, notamment vers le port de commerce, pour que le port rentre dans la vie des Brestois. Et ça s'est passé parce que il y a eu des choses très très belles. Ils ont fait, je me souviens, d'Urban Sax, qui est un groupe de saxophonistes qui est arrivé par la mer jouer. Et il y avait tous les gens à attendre en bas. Donc il y a tout le début des Jeudis du Port, si on veut, le début d'une animation de la mer à Brest. Donc il y a quelque chose où cette ville, elle n'est pas fière d'elle et elle apprend peu à peu. Donc voilà, c'était ces opérations. Et après, il y a eu Brest, un cœur à ma ville. Et peu à peu, le quartz s'est retourné, a été refondé vers la mer. Donc c'est comme une ville qui se travaille elle-même. Ce n'est pas une ville donnée d'avance. Et moi, j'avoue que je la trouve très très belle pour ça aussi.
Nous arrivons au terme de notre balade, donc au croisement entre la rue Vauban et la rue de la Porte. Sur l'ancienne rue La Pérouse. À Brest, il y a des rues, des bibliothèques et même des lycées qui portent le nom de La Pérouse. Quel est le lien entre ce navigateur français du XVIIIe siècle, Brest et tes recherches ?
C'est vrai que je fais souvent appel à La Pérouse. Alors, je pense que ma première rencontre avec la Pérouse, c'était ici, sous nos pieds, hein, dans la rue La Pérouse. Là, on est devant trois monolithes de pierre qui ont été taillés par Véronique Millour et Philippe Meffroy. Et donc, on est au verso ici. Ce qu'on peut lire, c'est un texte de Jean-François Quatmeur. Ils passèrent là, rue La Pérouse, ils y sont encore, éternisés dans les pauses du quotidien, maillons anonymes de la chaîne humaine, J.F. Quatmeur. La vieille rue La Pérouse, je l'ai découverte... avant qu'on ne la comble vraiment. Donc c'était une rue qui était souterraine sous ce bâtiment-là, quand il n'avait pas été refait. Donc c'était sous une banque. Et on pouvait y accéder avec les copains d'étudiants, on y accédait ainsi. Et donc on découvrait une rue enfouie. En fait, Brest a beaucoup de choses enfouies, parce qu'après-guerre, on a beaucoup nettoyé Brest, mais tous les gravats ont comblé les rues. La rue Pasteur, par exemple, mais ici aussi à Recouvrance. Donc ma première découverte, ça a été cette rue La Pérouse. C'était un bout de rue, c'était pas très grand. C'était sombre, un peu comme une cave, mais on reconnaissait bien la porte d'entrée, les fenêtres, le nom de la rue était dessus, etc. Donc ça m'a frappée parce qu'à ce moment-là, je travaillais beaucoup sur l'histoire de la photographie. Et j'ai eu l'impression comme d'une inversion. C'est-à-dire que l'histoire de Brest, comme en négatif de photographie, en fait, elle était dessous. Et c'est pour ça que la première fois, j'ai rencontré La Pérouse, sans trop savoir qui c'était, Je me suis dit que c'était une belle, déjà un beau contact, cette rue La Pérouse. Après, donc, j'ai fait une exposition sur... j'ai fouillé La Pérouse. Et La Pérouse, c'est le... Alors, c'est un grand navigateur, un militaire. Hein, il est donc parti de Brest pour une expédition, sur une de ses dernières expéditions, qui allait sur les traces de Cook, en tout cas pour ramener du matériel scientifique. C'était le 18e, le temps de l'encyclopédie, enfin le temps où on commençait à essayer de rendre un savoir peut-être plus visible, plus lisible. Et donc il est parti avec des dessinateurs naturalistes, il est parti avec des géographes, avec des gens qui allaient mesurer, faire des cartes, etc. Et donc cette expédition, partie de Brest, m'a absolument passionnée. Il est parti avec deux bateaux, qui s'appellent l'Astrolabe et la Boussole. Donc deux instruments, le moment où les instruments de marine plus efficaces, plus scientifiques se mettent en place. Et voilà, donc c'est pour ça que ma passion pour La Pérouse, ce très grand navigateur, dont je crois qu'on reconnaît aujourd'hui qu'il a été un temps essentiel français, hein, parce que Cook était anglais. Du coup, on a un Français parti de Brest qui a apporté du matériel, parce que même s'il a coulé, parce qu'effectivement, la boussole et l'astrolabe ont coulé, dans les eaux de Vanikoro, c'est-à-dire quasiment de l'autre côté du monde, si on prend la sphère. Mais de Lesseps avait pu rapporter du matériel. Et donc, on travaille toujours avec les plantes, par exemple, rapportées, les notations de ce qui est... Alors, je pense qu'il y avait des vraies plantes aussi ramenées dans des paniers, mais aussi les notations qui ont été faites, les dessins qui ont été faits, les cartographies, etc. Donc, La Pérouse, c'est vraiment fondamental pour la connaissance scientifique de la mer. Voilà.
Pour une plasticienne, les couleurs peuvent avoir un rôle important dans la création. À Brest, les tons sont plutôt gris-blanc entre le ciel et le béton. Est-ce que ces couleurs influencent ton travail ?
Ah oui, complètement. Mais alors les gris, c'est une gamme de gris, c'est toujours des gris. Le gris, c'est celui qui prend le plus la couleur. On parle des gris colorés. Un gris, il est rarement neutre. Donc en fait, je trouve ça très beau que cette ville, elle se soit prise de gris. Mais on a aussi une lumière assez étonnante qui n'existe pas forcément ailleurs, ce qui fait que ça la rend blanche. Alors la ville blanche, c'est pas tout à fait la même chose, c'est la vue de la mer. Et parfois on parle d'Alger et de Brest, toutes les deux des villes blanches de la mer, hein, vue de la mer. Mais je pense que la lumière y est pour beaucoup. Et un gris de béton, un gris mat coloré, prend extrêmement bien la lumière de Brest en fait. La lumière juste après la pluie par exemple, ou la lumière d'un rayon de soleil comme on peut en avoir dans la journée sur Brest. Donc voilà pour moi la couleur à Brest. Oui, c'est fondamental, oui.
Et pour finir, est-ce que tu peux nous citer des ouvrages qui ont marqué ta vie dernièrement ?
Oh là là, ça c'est compliqué, non ? J'en ai plein, mais par contre, je pensais tout à l'heure, au cours de notre interview, à notre petite toile qui est assez étonnante. Elle est au musée de Brest. C'est une toile de Maurice Denis qui prend... Donc Maurice Denis, c'est un peintre du début du XXe siècle. Et je me tourne un petit peu, mais la vue prend du dessus de la Pinfeld, du château. Et là... Pour parler de couleurs, c'est assez étonnant parce qu'on voit la mer est violette et on a cette petite toile qui nous donne aussi le côté absolument très coloré de Brest qu'il faut vivre en fait pour comprendre. Mais le petit Maurice Denis, qui doit s'appeler peut-être le port de Brest, je ne sais pas, qui est au musée des Beaux-Arts de Brest.
D'accord.
Bonne visite.
Merci beaucoup Marie-Michel pour cette découverte de Brest avec toi aujourd'hui.
Merci à vous.
Pour creuser le sujet, nous vous suggérons de faire un tour au musée des Beaux-Arts de Brest, observer les toiles de Maurice Denis, lire « Poétique de la ville » de l'anthropologue Pierre Sansot et s'intéresser aux travaux de l'architecte urbaniste Paola Vigano sur l'ouverture au public de la Pinfeld. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Radio U où sont publiés tous nos épisodes. À la réalisation, Brieux Calonnec, Jody Kimmerle-Brelier et Manuel Saïquet. À bientôt.